Vous écoutez France Culture.
Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Alain Fleischer, qui publie deux livres, Quelques obscurcissements, aux éditions du Seuil, et L'ascenseur, au Cherche-Midi. Évidemment, la vérité ne se dit pas, elle ne s'écrit pas, même quand il y a volonté de la dire, de l'écrire, ou croyance sincère en cette volonté, en cette possibilité. Toujours, la vérité se dérobe, toujours, elle échappe, c'est son essence. Toujours, une volonté contraire s'oppose à celle de la dire, de l'écrire, et finit par l'emporter à la faveur d'une ruse suprême. Toujours, une ultime serrure résiste à toutes les clés jusqu'à la dernière. Toujours, l'auteur lui-même, le coupable, a prévu cette serrure-là contre les clés de l'écriture qu'il a lui-même forgée. Fleischer, qu'il y avait l'artiste, le photographe, le cinéaste et l'écrivain. Et je me demande si aujourd'hui il n'y a pas l'écrivain et l'artiste, avec une inversion de l'identité.
C'est possible, en effet. En tout cas, l'écriture, la littérature m'occupe aujourd'hui prioritairement. C'est l'activité à laquelle je me consacre avec le plus d'envie, le plus d'urgence, le plus de nécessité. Peut-être pour rattraper du temps perdu, puisque c'était quand même un projet premier, quand j'étais, disons, enfant ou adolescent, et que je me suis laissé attirer par d'autres pratiques qui me passionnent aussi, et que je classerais, disons, du côté de l'image. Il y a eu les images pour moi et les mots. Je me suis consacré pendant des années aux images, notamment à celles du cinéma, de la photographie, des arts plastiques. Et puis j'en viens aux mots avec beaucoup de retard, avec beaucoup de projets accumulés. Et c'est sans doute la raison pour laquelle maintenant c'est cette activité-là qui donne l'impression de dominer les autres. Mais je pense qu'elle continue de se nourrir réciproquement.
Aucune n'est exclue ?
Aucune n'est exclue. Je continue avec passion à filmer. Je viens de terminer un film avec et sur Jean-Luc Godard, qui a été présenté au Festival de Locarno, qui va être présenté au Festival de Montréal. Je continue à faire des photographies, à créer des œuvres destinées à des expositions. Mais c'est vrai que c'est l'écriture, voilà, qui mobilise aujourd'hui mon temps, mes idées, aussi ma mémoire.
Parce que l'enjeu vous paraît plus essentiel ?
Il me paraît plus global. Je pense que vraiment, c'est quand même dans l'écriture, c'est-à-dire dans la langue, que je retrouve mon programme, mon projet. celui qui peut décrire tous les autres. Car je peux parler de mes photographies, de mes installations, de mes films. Par contre, je ne pourrais pas faire un film sur mes romans. Donc il y a quand même cette hiérarchie-là, que la parole, l'écriture, la littérature sont un surmoi. Y compris au-dessus du cinéma, qui est un surmoi, je crois, alors pour les arts en général, et notamment au XXe siècle, tous les artistes et toutes les disciplines artistiques sont fascinés par cette discipline qui devine le XXe siècle et qui me fascine beaucoup, qui m'a fasciné au moment où je l'ai abordé, parce que j'avais l'impression qu'une place était plus facile à y prendre qu'en littérature, où le terrain me semblait occupé par de très grandes figures, alors que le cinéma, même s'il avait déjà donné lieu à des chefs-d'œuvre, voilà, me semblait un territoire plus ouvert encore à de l'invention, à de l'innovation, à de la recherche. Mais c'est vrai que c'est quand même les mots qui programment les images et non pas l'inverse.
Vous parliez du temps perdu pour l'écriture tout à l'heure, et il semble qu'il y ait une urgence qui vous pousse à publier au moins un livre par an, quelquefois même deux.
Oui, alors parfois ça prend même une allure. Enfin, on me dit ça pas comme vous, on me le dit sous la forme d'un reproche. Je n'obéis, je dois dire, à aucune stratégie. Je désobéis aux recommandations que me font parfois les éditeurs. Il ne faut pas publier plus d'un livre tous les deux ans ou des choses comme ça. Car je ne veux obéir qu'à ma propre loi. Parfois contraire à celle, je dirais, du marché ou de l'édition. Je veux bien admettre que, par exemple, les critiques littéraires ne peuvent pas parler de tous mes livres si j'en publie trop. Mais ma loi, c'est voilà, de maintenir ce rythme, qui est peut-être un rythme suicidaire, je n'en sais rien, mais j'ai besoin de ce rythme pour continuer d'écrire, pour garder cette vitesse et pour me maintenir au-dessus du vide, hein, comme ces personnages de dessins animés qui continuent de courir très vite au-dessus d'un précipice, et c'est la conviction de leur vitesse qui les maintient. J'ai besoin de ça, et voilà, donc je n'obéis qu'à cette nécessité-là. Et parfois, d'ailleurs, les livres comme ceux dont il est question aujourd'hui s'enchaînent ou se complètent les uns les autres. Hein. Il y a des livres qui en prolongent un autre ou en annoncent un autre.
Et il y a une démarche que vous pratiquez qui est la revisitation.
Voilà, j'aime bien revenir sur une matière fictionnelle ou autobiographique, d'ailleurs l'une ou l'autre, et j'aime bien constituer des sortes d'archipels de textes. Cette idée me plaît assez qu'une fiction, qu'une matière fictionnelle ne soit pas entièrement contenue dans un seul volume et que le lecteur ne puisse pas se dire ben voilà, tout est là, j'ai tout sous la main, tout est enfermé dans cette boîte, et qu'il lui faille, s'il en a envie, chercher ailleurs une suite, un prolongement, un écho dans d'autres volumes, sur d'autres surfaces, d'autres formes. Et parfois une matière fictionnelle donne lieu pour moi à un gros livre, je dirais, volumineux, qui donne l'impression d'avoir peut-être épuisé le sujet. Et pourtant, j'ai besoin ou envie de le compléter par une autre forme, qui est une forme un peu spéculative, ou alors un fragment autobiographique qui éclaire, plus ou moins, ou qui obscurcit le projet.
Un photographe travaille avec la lumière, un cinéaste aussi. Est-ce que l'écrivain, lui, c'est un homme de l'ombre et de l'obscurité?
Oui, mais je dois dire que je suis d'accord. L'écrivain travaille avec la nuit, avec l'obscurité. Mais c'est aussi comme ça que travaille souvent le cinéaste, contrairement au peintre. Le peintre, il part de la toile blanche qu'il couvre. Le cinéaste, pour éclairer son sujet, doit partir du noir. Sinon, contre la lumière du jour, il ne peut rien faire. Filmer des scènes diurnes, c'est condamner l'image à être entièrement déterminée par le soleil. Quand on filme la nuit, au contraire, on fait la lumière qu'on veut, on construit à partir du noir. Et pour l'écriture, c'est vrai que je construis à partir du noir et que parfois j'aime aussi y retourner. Car les tentatives d'éclairer, d'éclaircir un sujet ne font parfois, je m'en rends compte, que l'obscurcir. Et c'est peut-être ce que dit l'extrait que vous avez lu tout à l'heure. Dans le fond, je pense que chaque écrivain, quand il va raconter une histoire, se raconte d'abord l'histoire qu'il veut bien entendre lui sur son projet, car la vérité, c'est qu'il ne veut pas la dire, la vérité, c'est qu'il cache quelque chose, un mensonge, une déception, un échec, une douleur, et que c'est ça le vrai sujet caché de l'écriture et de la littérature. Voilà, donc une part d'ombre, une part de nuit. Et les projets que se racontent les écrivains quand ils s'apprêtent à, voilà, à écrire, à raconter une histoire, une fiction, ne sont que des leurres auxquelles ils veulent bien croire eux-mêmes.
Deux livres, donc, Alain Fleischer, publiés simultanément à cette rentrée. Quelques obscurcissements dans la collection Fiction et compagnie au Seuil, où sont publiés la plupart de vos autres livres. Et au Cherche Midi, L'ascenseur, qui est sous-titré Fiction. Quelques obscurcissements, on peut se demander si ce n'est pas un texte auquel vous entendez donner une nouvelle chance.
Oui, mais je dirais plutôt une nouvelle lumière, puisqu'on parlait de nuit et de jour. Une nouvelle lumière dans la mesure où, quand je l'ai publié en 91 chez un jeune éditeur qui depuis a d'ailleurs abandonné, provisoirement l'édition, François-Marie Desrolles, il s'agissait en fait de republier sous la forme d'un vrai livre une petite nouvelle qui n'avait paru que dans un catalogue et à laquelle ce jeune éditeur s'était intéressé. Quand il m'a proposé de la rééditer, je trouvais ça inutile, elle avait déjà son existence dans ce catalogue, et comme il insistait, j'ai trouvé cette raison de la republier, de décrire les circonstances de son écriture. Et à l'époque, quelques obscurcissements, c'était la petite nouvelle très ancienne que j'avais écrite quand j'avais 20 ans, qui s'appelle La Fontaine Fontec, et les circonstances qui m'avaient conduite à l'écrire. En fait, aujourd'hui, après avoir écrit L'amant en culotte courte, qui était un gros travail de remémoration, de reconstitution d'un épisode important de mon enfance, ou de la fin de mon enfance.
Ça, c'est le livre qui a été publié l'an dernier.
Voilà, exactement. Je me suis rendu compte que ces obscurcissements, ce livre, ces quelques obscurcissements, étaient aussi la suite de cette affaire-là. Puisque ça se passe aussi à Londres, mais 7 ans après les événements de l'été 57. Et que, voilà, en relisant le livre, je me suis rendu compte de tout ce que m'avait apporté, tout ce que m'avait appris l'écriture de L'amant en culotte courte. Gros travail, là, vraiment, de fidélité à un souvenir, à des événements, à une époque, à une ambiance, à des lieux, à des personnes. Et voilà, je me suis rendu compte que ce texte pouvait être repris, légèrement remanié, sans grand bouleversement, mais dans cette nouvelle lumière. C'est-à-dire, il annoncera toujours, il continuera à expliquer comment j'étais amené à écrire la petite nouvelle, La Fontaine Fontec, mais il se repositionne aussi comme la suite et fin de cette aventure que j'avais vécue quand j'avais 13 ans avec une jeune femme de 20 ans et que je retrouve par hasard à Londres, vraiment par le plus grand des hasards, alors que je suis allé en plein hiver, là, en janvier, fêter mes 20 ans avec mon oncle et ma tante.
Donc, vous publiez après ce qui arrive avant.
Oui. Oui, tout à fait. C'est vrai que maintenant, je porte à la connaissance d'un public un petit peu plus large. J'espère que lors de la première publication très confidentielle, un épisode qui vient après. Alors, dans cette publication nouvelle, la chronologie se rétablit. Il avait été publié avant, mais on peut dire que sa vraie publication, maintenant dans une forme définitive et dans son éclairage juste, j'espère, ou dans son faux clair-obscur, vient l'année d'après la publication de L'amant en culotte courte.
Alors, dans le récit autobiographique, il s'agit de la célébration de votre 20e anniversaire chez votre oncle et votre tante à Londres, où est évoquée l'histoire qui arrive 7 ans plus tôt, je crois, qui est celle de l'amant aux culottes courtes.
Voilà, en fait, au cours de cet anniversaire, la célébration de cet anniversaire, mon oncle et ma tante, et plutôt ma tante, puisque c'est elle qui est vraiment ma vraie tante, qui était la sœur de mon père, me fait 2 cadeaux, en gros, un cadeau pratique, comme elle les appelait, qui était une très belle veste en daim, qu'elle avait fait couper par un tailleur hongrois de Londres, et un cadeau symbolique, qui est l'histoire de ma famille, dont mon père ne m'avait jamais parlé, par pudeur, par un trait de son caractère qui était secret. Ma tante me fait ces deux cadeaux, une veste et une histoire familiale, très dramatique. Et à la suite de ça, de ces moments passés avec mon oncle et ma tante, et alors que je m'apprête à rentrer à Paris, je croise par hasard dans le métro la jeune femme qui avait été ce personnage à qui je dois tant, avec qui j'avais donc partagé ces moments d'expérience amoureuse et sexuelle 7 ans plus tôt. Et donc, en donnant suite à cette rencontre, le temps d'une nuit, à la fois je conclus l'histoire commencée 7 ans plus tôt alors que j'étais encore un enfant et que là je suis devenu, disons, un jeune homme, mais j'ai le sentiment obscur de trahir mon oncle et ma tante, et surtout ma tante, comme si la vraie raison de mon séjour à Londres n'était pas de recevoir ces cadeaux, mais de retrouver cette jeune femme. Donc il se passe quelque chose d'un peu troublant.
Alors que votre tante vous a révélé cette histoire familiale qui a fait qu'elle-même et son frère, c'est-à-dire votre père, étaient les seuls survivants de votre famille.
Exactement, c'est une histoire que je n'avais jamais su de la bouche de mon père, qui n'en parlait pas, et que m'apprend ma tante, dont la déportation en fait de mes grands-parents et de mes deux oncles, donc des deux frères de ma tante et de mon père. Et elle me le dit en quelque sorte une fois pour toutes, pour que je le sache et pour que je grandisse, puisque je deviens majeur, disons, avec cette connaissance-là de ce destin de ma famille. Et donc c'est une double maturité à laquelle j'accède ce jour-là, cette connaissance du destin de ma famille et puis cet accès à la conscience de ce qu'est l'aventure amoureuse, que j'avais vécu à 13 ans évidemment dans une sorte de flou, de vague, j'étais vraiment dans une fiction. Et là, retrouvant le personnage qui en avait été la partenaire, l'héroïne, j'arrive de plein pied, de plein pied dans cet âge des aventures d'adulte. Et en même temps, j'y arrive pour la quitter aussitôt, pour la conclure d'une façon assez violente. Mais ce sont ces deux événements mêlés que raconte le livre, et l'un projetant de l'obscurité sur l'autre, et réciproquement d'ailleurs.
Il faut quand même un sacré hasard, comme on n'en rencontre que dans les romans, ou un coup de théâtre, je ne sais pas, pour que vous rencontriez, tout simplement parce que vous avez décidé de ne pas rentrer en voiture à l'aéroport, mais de prendre le métro, que vous rencontriez cette jeune femme.
C'est vrai, mais les hasards produisent des choses souvent tout à fait extraordinaires. C'est un hasard explicable, puisque quand même tout se passe dans ce même quartier. Hein. Mon oncle et ma tante habitaient le même quartier que la famille où j'avais été accueilli l'été 57, et c'est une famille qu'ils avaient trouvée dans leur quartier, justement. Et donc la jeune femme, Barbara, avait pris l'habitude de rendre visite à cette famille qui nous avait accueillis l'un et l'autre, séparément évidemment, tous les ans, alors qu'elle vivait ailleurs, qu'elle était mariée, qu'elle était partie s'installer aux États-Unis, je pense, ou au Canada.
Donc tous les deux, vous êtes de passage.
On est tous les deux de passage, et tous les deux pour des... Voilà, elle, c'est parce que c'est la fin de l'année, et moi parce que c'est mon anniversaire, qui est début janvier. Et voilà, donc c'est peut-être le lieu le plus normal où on pouvait se rencontrer. On aurait pu aussi bien se croiser, évidemment, à Toronto ou à Pékin. Mais enfin, le fait de se croiser là est assez logique, finalement.
Vous ne la reconnaissez pas ? C'est elle qui vous reconnaît ?
C'est elle qui me reconnaît. Moi, je ne la reconnais pas parce que je ne l'avais vue qu'avec mes yeux d'enfant, avec ce rapport des tailles qui était très différent. J'étais un petit garçon, pas spécialement développé pour mon âge. Elle était une grande fille, très belle. Et là, elle a pris 7 ans de plus, donc elle est une femme de 27 ans. Elle n'a plus pour moi la même grâce, la même fraîcheur. Ça reste une très belle femme, mais moi, j'ai grandi.
Elle vous le dit d'ailleurs, elle vous dit « tu as grandi ».
Elle me dit « tu as grandi », oui, ce qui d'ailleurs est une chose qui m'apparaît instantanément comme une fausse note et comme une maladresse, parce que c'est une chose que ne peuvent me dire que mes parents ou des amis de ma famille. « Tu as grandi, il a grandi ». Ce n'est pas une chose que dit une amoureuse à son amoureux. Donc tout de suite, cette remarque me gêne. Mais oui, c'est vrai, j'ai grandi, comme le promettaient mes grands-pieds. Et le rapport est différent. Et finalement, tout devient tellement possible à ce moment-là, puisque même nos tailles sont accordées, et qu'entre un garçon de 20 ans et une fille de 27, la différence d'âge n'est plus aussi visible qu'entre 13 ans et 20 ans. Tout devient possible, et du coup, le charme, en quelque sorte, s'est perdu. C'est une autre personne, je suis moi-même un autre, et la relation ne peut pas reprendre. Mmh.
Tout de même, vous n'allez pas prendre l'avion ce soir-là.
Non, je ne vais pas prendre l'avion. À vrai dire, je ne sais pas trop ce quoi faire. Il semble évident que cette rencontre doit donner lieu à des retrouvailles, qu'il faut qu'on trouve un programme, quelque chose à faire ensemble pendant cette nuit. Mais je suis très dépourvu d'idées. Nous n'avons plus de maison. On avait une maison quand on était l'un et l'autre, les autres de cette famille. Là, moi, je viens de quitter ma tante. Je n'ai pas encore une grande habitude des hôtels. C'est la nuit, on ne sait pas trop quoi faire. Normalement, je dois prendre l'avion. Donc voilà, on atterrit dans un pub et on commence à boire. Et je ne sais toujours pas ce qui va se passer. Et en sortant du pub, on a beaucoup bu. Et à nouveau, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc je décide de marcher et puis voilà. On marche, on avance dans la nuit.
Vous marchez et vous décidez de vous en prendre à toutes ces illusions.
Je décide, oui, et si vous voulez, je suis d'abord poursuivi. Nous sommes poursuivis par, j'imagine, un teddy boy, comme on les appelait, un voyou qu'on croise dans le pub en question, qui ressurgit comme une sorte de fantôme ou de mauvais garçon dans ces mauvais lieux de Londres la nuit et dans la brume qu'est la lande de Hampstead.
On peut rencontrer Jacques l'Éventreur, par exemple.
Oui, c'est un peu cette ambiance-là. C'est un peu cette ambiance-là. Et c'est vraiment un quartier malfamé, une zone malfamée où les voyous se battaient en bande rivale à coups de chaînes de vélo contre des couteaux à cran d'arrêt. Voilà, et dans cette ambiance-là, on est suivi de très près. On doit former un trio étrange dans la nuit par quelqu'un qui a visiblement l'intention de s'emparer de Barbara. Voilà. Et je ne sais pas trop ce qui se passe. J'avance les yeux fermés. Je décide finalement qu'il faut faire quelque chose et de me retourner la tête la première pour essayer de bousculer ce suiveur malvenu. Et puis j'entends un simple éclat de rire et puis je découvre quelques minutes plus tard, après qu'il ait disparu, que la belle veste en daim que je viens de recevoir en cadeau de ma tante a été ouverte en diagonale de l'omoplate gauche jusqu'à la hanche droite par un coup de, je ne sais pas, de couteau, de lame de rasoir, de cutter. Voilà, et que je viens d'échapper probablement à un fait divers assez sinistre.
Vous pensez que ce n'était pas le diable qui s'était présenté à vous, là, dans cette nuit?
Ça ressemble à ça. Quand je repense à cette scène, ça m'évoque, vous savez, ces gravures de Durer, où on voit un chevalier, une jeune fille, et le diable, ou la mort. C'est ce que ça m'évoque. Un étrange trio avec un couple et quelqu'un qui veut la mort ou est le diable.
Et c'est après cette aventure, au bout de la nuit londonienne, que vous écrivez La Fontaine Fontek.
Oui, alors, bon, cet épisode se conclut par une une scène très, très violente, très désespérante dans une cabine téléphonique où ont lieu les vraies, véritables retrouvailles, je dirais, charnelles entre cette jeune fille et moi, et dans des conditions assez particulières. Et puis nous nous séparons, je finis par rentrer à Paris le lendemain. Et la nuit suivante, à Paris, dans la petite chambre de bonne que j'occupe au-dessus de l'appartement de mes parents et qui est ma garçonnière d'étudiant, en pleine nuit, n'arrivant pas à trouver le sommeil, j'écris une nouvelle, comme sous la dictée. Je ne sais pas d'où elle vient, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Je vois aujourd'hui quelles pouvaient être les influences que j'avais à l'époque. C'était peut-être un peu Blanchot, Hoffmann, enfin c'est un mélange de tout cela. Mais en tout cas, j'écris cette nouvelle d'un seul trait, dans la nuit. Je la range et je l'oublie pendant 20 ans.
Cette nouvelle, c'est-à-dire un visage.
C'est-à-dire un visage et une nouvelle qui, alors, quand j'ai écrit le petit livre pour Desrolles, publié en 91, elle me semblait échapper à toute tentative d'éclaircissement. C'est-à-dire que les événements londoniens ne me semblaient pas du tout expliquer cette nouvelle. Quand j'ai redécouvert ce livre pour le remanier, le réécrire et le republier aujourd'hui, je trouve d'extraordinaires coïncidences, enfin, entre les événements à Londres, ma relation à ce qui se passe vis-à-vis de ma tante, vis-à-vis de Barbara, et cette nouvelle, où tout est décalé, évidemment, mais avec, dominant le tout, un très très fort sentiment de culpabilité.
L'autre livre, Alain Fleischer, s'intitule L'ascenseur. Alors lui, vous l'avez sous-titré Fiction. C'était peut-être plus facile que pour quelques obscurcissements. Et il paraît au Cherche-Midi. Et là encore, c'est une revisitation, c'est-à-dire un éclairage nouveau sur un texte écrit il y a quelque temps.
Tout à fait. Alors juste une précision, le mot fiction n'est pas de moi. C'est l'éditeur qui l'a utilisé pour qualifier ce livre, qui pour moi est une nouvelle précédée d'une sorte de petit essai sur les statuts que j'imagine à certains de mes textes. Moi, vous savez, les éditeurs ont très envie de publier des romans et de la fiction. Donc ça a été qualifié comme ça pour indiquer le registre, puisque ce n'est pas un roman, ce serait très prétentieux de dire que c'est un roman, c'est trop court et c'est un peu plus qu'une nouvelle. Alors c'est un livre qui vient entre les livres et qui participe alors de ce goût que j'ai pour les archipels de textes. Il complète, enfin il fait suite à un livre publié il y a longtemps, en 1995 chez Actes Sud, qui s'appelait La nuit sans Stella. Il vient à la suite de celui-là et juste avant, un gros livre, alors publié plus récemment, il y a 2 ans, chez Gallimard, dans la collection de Philippe Soler, c'est qui s'appelle Immersion. C'est un texte entre les livres. C'est
un maillon manquant.
C'est un maillon manquant. Et d'ailleurs, son titre indique bien le côté absolument circonscrit dans l'espace et dans le temps de ce qui se passe. Ça se passe dans un ascenseur, donc un espace très restreint. D'ailleurs, je vois entre les deux livres ce point commun. Il y a, dans quelques obscurcissements, une scène essentiel dans une cabine de téléphone, et là, c'est dans un ascenseur, deux espaces qui se ressemblent, je trouve. Donc voilà, j'aime bien cette idée que des livres puissent se compléter, et que des petites formes, comme c'est le cas de l'ascenseur, puissent trouver leur place entre deux livres déjà publiés, et les éclairer. La petite nouvelle dans l'ascenseur, elle est précédée de ce que j'appelais une petite note spéculative sur ça, sur le statut d'archipel de certains
textes. La stratégie de l'archipel.
Voilà, oui. Avec cette idée qu'il peut y avoir des îles plus importantes, hein, les gros volumes, entre guillemets, où une fiction est développée dans l'extension qu'on peut lui donner, son extension maximum. Mais par contre, un petit îlot appartenant au même archipel peut permettre une circulation, un voyage, un détour, un passage. Et c'est le statut de ce texte. Et d'ailleurs, l'archipel auquel il appartient sera prochainement complété, puisqu'il y a donc La Nuit sans Stella chez Actes Sud en 95. Maintenant, dans l'ordre chronologique, ce petit livre qui vient après, L'Ascenseur, Cherche Midi. Publié il y a 2 ans, le gros livre Immersion, est publié prochainement à nouveau au Cherche Midi, en mars, je crois, une version corrigée du Marchand de Venise, qui est le travail que je prête à un des personnages d'Immersion. Donc, ce sont des textes de statut très différents. Ce texte dont je prépare la publication est un texte de théâtre, principalement, puisque c'est une retraduction et une correction, une vraie correction, au sens que j'en modifie la leçon de la pièce de Shakespeare. Donc plutôt du théâtre. Immersion, c'était un roman. Ce petit livre, L'Ascenseur, c'est un mélange entre un essai et une nouvelle. Et avant, il y avait La Nuit sans Stella, qui était une fiction liée à une exposition aux rencontres d'art. Mmh.
Et quelques obscurcissements, c'est aussi un récit et une fiction ou un conte.
Oui, tout à fait. Quelques obscurcissements, c'est je dirais, un fragment autobiographique et une fiction, un conte. Tout à fait.
Mais est-ce que toutes ces petites îles n'ont pas vocation à devenir une presqu'île? C'est-à-dire que chacun de ces livres ne serait qu'un fragment d'un livre général?
Alors, honnêtement, je ne l'ai pas pensé comme ça, mais je n'exclus pas de trouver les territoires manquants. Je ne peux pas dire que ce soit un projet délibéré de constituer une sorte de grand déploiement de textes qui auraient tous des relations entre eux. Et si ça se fait, ça aurait été au départ à mon insu, mais je me rends compte que des liens existent, que je peux imaginer des circulations. Et ce serait satisfaisant d'arriver à cela, enfin de créer une géographie homogène des textes, même si certains d'entre eux restent séparés des autres par des océans. Mais l'océan est un lieu intéressant.
Alors vous disiez que L'Ascenseur renvoie à La Nuit sans Stella, que vous avez publié en 1995 chez Actes Sud, qui accompagnait en fait une expo de photos que vous aviez présenté aux rencontres d'Arles cette année-là. Mais il y a un élément important, c'est que ce livre, La Nuit sans Stella, est le premier que vous avez écrit en dictant, qui est aujourd'hui votre dispositif d'écrivain.
C'est vrai, vous avez une excellente mémoire. C'est pour ce livre publié chez Actes Sud que j'ai expérimenté ce mode de travail et d'écriture, puisque un jour, l'éditeur m'a appelé en me disant « Bon, on attend votre texte dans les 48 heures ». Je n'avais pas du tout imaginé que le délai serait si court. Et donc, pour y arriver, j'ai expérimenté ce mode de la dictée que je croyais absolument impraticable pour moi, puisque comme beaucoup d'auteurs, comme la plupart des auteurs, j'écrivais jusque-là, enfermé dans ma petite chambre, dans la solitude, le silence, l'isolement, et que dicter à quelqu'un, aussi intime soit cette personne, me semblait une chose impossible. Donc c'est vrai, vous avez raison, La Nuit sans Stella inaugure ce mode oral, pour moi, de l'écriture, donc d'une écriture sans inscription, d'une écriture qui s'appuie entièrement sur la dimension musicale et sonore de la langue, une dimension qui, à vous, vous est familière en tant que poète. C'est juste de le dire parce que je pense que tous ces livres que j'ai écrits depuis doivent beaucoup à cette méthode. Cette projection, je dirais, immatérielle du texte dans un espace voilà, aérien, sans résistance, sans travail de la main, sans fatigue du corps, me permet d'écrire idéalement pour moi. je pense que je n'écrirai pas comme j'écris, en tout cas pas de cette façon-là, peut-être même le style serait différent, si je ne pouvais dicter. Et si donc je ne pouvais libérer le texte au moment de sa conception, de toute la matérialité de l'écriture, la feuille de papier, la machine à écrire, ou l'ordinateur, et l'écran, etc. Donc cette projection immatérielle, elle me permet... alors parfois on me demande, mais comment vous faites pour dicter des choses complexes, parfois des textes un peu théoriques ou des phrases très longues? Mais c'est au contraire. Ça se projette beaucoup mieux dans le vide que s'il fallait être freiné par le travail de l'inscription, qui freine, donc qui ralentit et qui risque de faire tomber la phrase. Alors que la proférant, l'articulant seulement, la parlant, elle a cette vitesse et cette légèreté qui fait que je peux la maintenir assez longtemps sans qu'elle tombe.
Mmh. On a parlé de quelques personnages. On n'a pas été très loquace aujourd'hui sur les lieux qui remplissent aussi ces livres que vous publiez. Il y en a un qu'on retrouve, c'est Venise. Et Venise, c'est précisément là que se situe l'ascenseur.
Tout à fait. Venise est donc le lieu commun aux quatre livres, hein, les trois qui existent et celui qui va arriver, puisqu'il y a même le mot Venise en son titre, hein, le marchand de Venise corrigé. C'est un lieu dont il m'a semblé d'abord impossible de parler, tant tout a été dit, peint, photographié, représenté, filmé sur Venise. Je me souviens d'ailleurs d'un admirable texte que peu de gens connaissent de Sartre sur Venise, la Reine Albemarle, un texte admirable et je pense indépassable sur Venise. Et puis, finalement, j'ai trouvé dans Venise alors, des analogies avec les procédures de la photographie et de l'apparition des images qui m'ont intéressé. Et là, je me dis, bon, peut-être que ça n'a pas été dit, peut-être que ça n'a pas été vu comme ça. J'ai vu Venise comme une sorte de grand bain, ce qu'on appelle le bain d'arrêt en photographie, c'est-à-dire le bain intermédiaire entre la révélation et la fixation. Et Venise m'apparaît comme ça, cette lagune avec cette eau presque stagnante, et le bain où les images sont en attente. Elles ont été révélées, parfois depuis très longtemps, mais rien ne les protège, elles ne sont pas fixées. C'est-à-dire que d'un instant à l'autre, elles peuvent disparaître. Et voilà, donc c'est pas un hasard si j'ai commencé à parler de Venise, dans un livre qui traitait aussi de photographie et qui était lié à une exposition de photographie. C'est à travers ce biais-là, à travers la question de la chimie de la photographie et des bains, que j'ai pu parler de Venise, comme une ville des images en attente et des images revenantes aussi.
Là, on est au Lido, à l'hôtel Ungaria, qui vient d'être refait complètement, qui est rutilant aujourd'hui. J'y passais il y a quelques jours et... pardon pour l'anecdote, mais dans le jardin, il y avait une superbe Rolls peinte en rouge avec la faucille et le marteau. Deux livres d'Alain Fleischer, L'ascenseur, où cherche midi, et Quelques obscurcissements aux éditions du Seuil. Du jour au lendemain, Angélique Thibault, Jean-Richard Dufour, Didier Pinault, Alain Weinstein, bonsoir.
Bonsoir.